Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le Grand Atlas des dinosaures est un ouvrage documentaire grand format de Riley Black, illustré par Riccardo Frappicini et publié en français par Glénat en 2023. Préfacé par le paléontologue Jean-Sébastien Steyer, il propose une synthèse visuelle et scientifique de l'histoire des dinosaures durant le Mésozoïque, du Trias au Crétacé. Son ambition n'est pas de raconter une intrigue, mais d'offrir des repères fiables pour comprendre l'évolution, la diversité et les modes de vie de ces animaux disparus. L'Atlas présente près de 70 espèces, associant des figures très connues, telles que Tyrannosaurus rex et Triceratops, à des taxons moins familiers. Chaque portrait est accompagné d'informations structurées sur l'habitat, les dimensions, le poids estimé, l'alimentation et l'appartenance à un groupe. L'ensemble privilégie une lecture par exploration. Le lecteur peut suivre la chronologie des aires ou s'arrêter sur une espèce. Les illustrations réalistes constituent un élément central, car elles donnent une forme concrète à des connaissances issues de fossiles nécessairement incomplets. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une traversée chronologique du Mésozoïque, du Trias au Crétacé, l'organisation historique est l'un des apports fondamentaux de l'Atlas. En couvrant le Trias, le Jurassique et le Crétacé, le livre évite de présenter les dinosaures comme un groupe uniforme ayant coexisté dans un même décor. Il replace au contraire leur diversification dans une très longue durée géologique. Cette perspective aide à comprendre que les espèces célèbres ne sont pas toutes contemporaines, les faunes. Les paysages et les relations écologiques changent profondément d'une période à l'autre. Le Trias correspond au début encore diversifié des dinosaures parmi d'autres reptiles. Le Jurassique est associé à l'essor de nombreuses grandes lignées. Le Crétacé révèle des écosystèmes particulièrement variés avant l'extinction de fin d'ère. Sans transformer l'ouvrage en traité universitaire, ce cadre donne une logique au portrait d'animaux. Il permet également de relier l'anatomie et les adaptations de chaque espèce à des environnements précis plutôt qu'à une image intemporelle de la préhistoire. L'Atlas fait ainsi de la chronologie un outil de compréhension. Connaître un dinosaure suppose de savoir quand il a vécu et dans quel monde il s'inscrivait. Pour un lecteur débutant, cette mise en ordre limite les confusions fréquentes. Pour un lecteur déjà intéressé, elle rend la diversité paléontologique plus lisible. Deuxièmement, près de 70 fiches pour comparer les espèces au-delà des vedettes, le livre repose sur une galerie d'environ 70 espèces. Choix qui concilie amplitude documentaire et lisibilité. Tyrannosaurus rex, Triceratops, Spinosaurus ou le Ptérodactyle, au sens courant, y côtoient des animaux moins souvent représentés, comme Mimorapelta. Cette coexistence est importante, elle déplace le regard des quelques icônes médiatiques vers l'extraordinaire variété des formes préhistoriques. Les fiches d'identité indiquent notamment l'habitat, la taille, le poids, le régime alimentaire et le groupe de rattachement. Ces catégories ne servent pas seulement à accumuler des données, elles permettent de comparer les espèces selon des critères stables. Une estimation de masse ou de longueur donne une échelle corporelle, le régime alimentaire suggère une place dans l'écosystème. Tandis que l'appartenance à un groupe aide à distinguer des ressemblances superficielles de liens évolutifs plus pertinents. Cette méthode rappelle aussi que le terme « dinosaure » recouvre des lignées très différentes. La présence d'animaux populaires facilite l'entrée dans l'ouvrage, alors que les espèces rares élargissent progressivement les références du lecteur. L'Atlas ne réduit donc pas la paléontologie à une succession de monstres célèbres, il invite à observer une diversité de morphologies, de stratégies alimentaires et de niches écologiques. Troisièmement, des informations scientifiques récentes rendues accessibles par une structure claire. Riley Black inscrit cet atlas dans l'état contemporain de la paléontologie en intégrant les découvertes majeures récentes signalées par l'éditeur. Cette orientation est particulièrement pertinente dans un domaine où les interprétations changent avec la mise au jour de nouveaux fossiles, l'amélioration des méthodes d'imagerie et la révision des classifications. L'ouvrage ne demande toutefois pas au lecteur de maîtriser d'emblée le vocabulaire technique ou les débats spécialisés. La fiche par espèce fournit un cadre de lecture régulier plutôt que de noyer l'information dans un texte continu. Elle met en relation des données comparables d'un portrait à l'autre. Cette présentation favorise une consultation non linéaire, adaptée aussi bien à une recherche ponctuelle qu'à une lecture suivie. Elle a également une valeur pédagogique, l'habitat. La taille ou l'alimentation sont des entrées concrètes à partir desquelles on peut formuler des questions plus larges sur l'adaptation et l'évolution. Il faut néanmoins lire ces données, notamment les poids et les reconstitutions de milieux, comme des estimations scientifiques fondées sur les preuves disponibles, et non comme des mesures directement observées. C'est précisément l'intérêt d'un atlas actualisé présenter des connaissances solides sous une forme accessible, tout en reflétant le caractère évolutif de la recherche sur le vivant disparu. Quatrièmement, l'illustration paléo-artistique comme instrument de compréhension des fossiles, les illustrations de Riccardo Frappicini ne sont pas un simple habillage décoratif. Dans un livre consacré à des espèces disparues, l'image joue un rôle interprétatif essentiel, les fossiles préservent surtout des éléments minéralisés. Alors que le lecteur doit imaginer des volumes, une posture, une peau ou un plumage, ainsi que l'inscription de l'animal dans son milieu. Le réalisme revendiqué des images donne donc une présence visuelle aux informations rassemblées dans les fiches. Il aide à percevoir la différence entre un animal à bec, un prédateur à dents, une forme cuirassée ou un dinosaure à plumes, et à rapporter les dimensions chiffrées à un corps plausible. Cette force visuelle explique le format d'Atlas et son intérêt pour des lecteurs de niveaux variés. Elle exige aussi une lecture attentive, toute reconstitution paléo-artistique s'appuie sur des preuves, des comparaisons anatomiques et des hypothèses raisonnables. Mais elle ne constitue pas une photographie du passé. L'ouvrage est ainsi utile lorsqu'il permet de relier l'image à la donnée descriptive plutôt que de les opposer. En combinant portraits illustrés et paramètres factuels, il montre comment la paléontologie transforme des traces fragmentaires en modèles cohérents, révisables à mesure que les connaissances progressent. Le résultat soutient autant l'observation que la mémorisation. En dernier lieu, une vision élargie des animaux préhistoriques et de leur classification, l'Atlas propose une entrée par les grands groupes auxquels les espèces se rattachent, ce qui permet d'aller au-delà de la seule reconnaissance visuelle. Cette dimension est utile parce que le langage courant mélange souvent plusieurs catégories d'animaux préhistoriques. Les dinosaures constituent une branche précise de l'histoire des reptiles, tandis que les ptérosaures, souvent appelés ptérodactyles dans l'usage général, forment un autre groupe de reptiles volants. Leur présence dans l'imaginaire des dinosaures ne doit donc pas effacer cette distinction scientifique, en indiquant le groupe de rattachement dans les fiches. Le livre donne au lecteur un moyen simple de situer chaque animal et d'éviter de classer ensemble des formes uniquement parce qu'elles vivaient à la même époque. Cette attention à la classification a des conséquences concrètes pour la lecture des images d'une corne, une crête. Des plaques ou des plumes ne définissent pas à elles seules une parenté. Il faut considérer l'ensemble des caractères et leur place dans l'évolution. L'ouvrage paraît ainsi conçu pour faire passer la curiosité immédiate à quoi ressemblait cet animal, vers une compréhension plus structurée de quel groupe relève-t-il, quel régime suivait-il, dans quel habitat vivait-il et quelles autres espèces partageaient son environnement. Cette progression donne au portrait une valeur comparative durable, au-delà de l'effet spectaculaire des grandes reconstitutions. En conclusion, le Grand Atlas des dinosaures s'adresse en priorité aux lecteurs francophones qui souhaitent disposer d'un panorama visuel, organisé et scientifiquement informé sur les dinosaures. Il conviendra aux enfants déjà lecteurs, accompagnés d'un adulte, aux adolescents passionnés de paléontologie, ainsi qu'aux adultes curieux recherchant un ouvrage de référence accessible plutôt qu'un manuel académique exhaustif. Son bénéfice pratique réside dans la consultation rapide des fiches habitat, dimensions. Alimentation et groupe permettent de comparer les espèces sans devoir naviguer dans un discours technique continu. Son intérêt intellectuel est plus large, l'Atlas replace ces animaux dans la chronologie du Mésozoïque et rappelle que la notion de dinosaure recouvre une diversité de lignées, d'anatomie et de milieu de vie, par rapport aux encyclopédies plus brèves ou aux livres centrés sur les seules espèces vedettes. Il se distingue par l'équilibre entre près de 70 portraits, l'intégration annoncée de découvertes paléontologiques récentes et le soin donné aux reconstitutions de Riccardo Frappicini. Le très grand format et la qualité graphique ne remplacent pas le contenu scientifique, ils le rendent plus immédiatement observable et mémorisable. La préface de Jean-Sébastien Steyer renforce en outre son ancrage dans la vulgarisation paléontologique française. Ce livre est donc particulièrement pertinent pour apprendre à regarder les dinosaures non comme des figures isolées de la culture populaire, mais comme des organismes situés dans des écosystèmes et une histoire évolutive longue. Il privilégie la synthèse et l'exploration visuelle, ce qui fait sa spécificité dans le genre de l'Atlas documentaire. Si vous souhaitez soutenir Riley Black, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.